Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello, un lundi de novembre, il est 14h normalement, c'est Rayon libre. Cette émission est enregistrée le 6 novembre matin, comme ça vous le savez. Et cette semaine, on va parler de vélo et de pactiser avec le vent. Alors avant de commencer, merci à tous ceux et toutes celles qui permettent à cette émission d'exister. L'association Libre à Toi qui héberge Cause Commune, les hommes, les femmes et les autres qui sont bénévoles dans cette association. Je remercie aussi Abel Guggenheim, je remercie aussi les invités qui se succèdent. Sans eux, cette émission n'existerait pas. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Et puis aussi, cette émission est en partenariat avec wheels.west-france.fr. Parfois, vous pouvez retrouver Rayon Libre là-bas. Alors, l'héritage des Jeux Olympiques, on m'a proposé plusieurs fois, ou on m'a même demandé « Et pourquoi tu fais pas un Rayon Libre sur l'héritage olympique ?» J'ai plein de bonnes raisons de ne pas l'avoir encore faite, cette émission. D'abord, l'héritage, je considère que c'est du temps long. Ensuite, je vous avoue, je n'ai pas hyper envie de faire un héritage comptable. Combien de kilomètres de pistes cyclables réalisées? Promis, non réalisé, pas promis mais livré. À Paris et en Ile-de-France et dans les villes hautes aussi. Combien de parkings vélos livrés dans les gares? J'ai juste une certitude, ces jeux étaient annoncés les premiers jeux cyclables de l'histoire. Ils étaient cyclables, mais enfin, est-ce que le vélo a emballé le Cojo? Se sont-ils déplacés à vélo? Je vous avoue, j'ai un doute. Et est-ce que les supporters venus du monde entier se sont rués sur les vélos disponibles? Un peu, probablement. Est-ce parce qu'il y avait des pistes cyclables ou parce que le vélo est devenu de plus en plus une solution de mobilité quand on est en vacances? Certainement. Si je devais ne retenir qu'un héritage, j'irais le chercher du côté de la méthodologie. Ce point fut abordé brillamment, à mon goût et à mon sens, dans cette émission Vive au sport. Vive au sport que vous pouvez retrouver sur Cause Commune. Le titre de cette émission, Jeux Olympiques et Paralympiques, quels héritages? Les mots d'Élie Patrigeon sonnent très justes. Selon lui, l'héritage est surtout méthodologique. Réunir pour un même objectif un ensemble d'acteurs qui ne sont pas du tout du même bord politique, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ont des objectifs différents. Et qui est ce Élie? Eh bien Élie, il est directeur général du Comité Paralympique et Sportif Français, le CPSF, qui est également représenté à la Commission Héritage 2024. Et à propos de JO, faut-il parler de performance? Probablement. La performance à vélo, c'est quoi? Entre autres, comprendre la mécanique des fluides. Le plus grand ennemi du cycliste, sportif ou pas, c'est pas l'automobile ni la pluie, c'est l'air. Pour aller vite ou même aller loin sans trop se fatiguer, il faut composer avec l'air. Qui est l'élément qui te freine le plus? Les athlètes et leurs équipes combinent travail en soufflerie et études posturales. Est-ce que ces deux concepts ne doivent être qu'appliqués au monde du cyclisme sportif? Est-ce qu'il n'y a pas une pertinence à penser soufflerie et études posturales pour monsieur et madame tout le monde? Toi là, toi aussi, moi, vous, nous, tous, optimiser notre position, non pas pour arriver plus vite au bureau, parce qu'on s'en fout, mais pour que le trajet pour aller au bureau soit plus confortable et plus agréable. S'il est plus confortable et agréable, alors on peut imaginer que celles et ceux qui se mettent au vélo auront encore plus envie de vélo. C'est les convictions de mon invité du jour, Alexis Lapouille. Il est installé du côté de Nevers, il a une soufflerie et il vient de créer une expertise en études posturales. Restez donc avec nous, vous tous, parce que ce sujet concerne tout le monde, absolument tout le monde, celles qui font déjà du vélo et ceux qui n'en font pas encore. Bonjour Alexis Lapouille, merci d'être avec nous au micro depuis Nevers aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Et oui, merci. Donc Alexis. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un métier au service des gains marginaux à un service pour monsieur et madame tout le monde?
En fait, je dirais, quelque part pour nous, il n'y a pas de différence entre un cycliste qui va faire les JO et monsieur tout le monde sur son vélo. Ouais. Ça reste un être humain sur un vélo qui va lutter avec ses petits muscles contre le vent et tous les éléments qui vont s'opposer, se mettre contre lui, voilà, ouais. pour avancer. Le plus vite possible, le plus longtemps possible ou avec le plus d'agrément possible.
Ou le plus confortablement possible aussi, parce qu'il y a là une notion de vitesse, mais aussi une grosse notion de confort là-dedans.
Exactement, ouais. Le confort est un élément d'ordre 1, même pour les cyclistes en compétition, et notamment je pense au triathlète, un triathlète qui va faire un Ironman et qui va courir qui va faire 180 km de vélo seul contre les éléments, s'il n'a pas un minimum de confort, ça se passe forcément un peu moins bien que s'il a du confort.
Ouais. Alors peut-être aussi quand même nous rappeler, Alexis Lapouille, quand même, qui sont vos clients historiques et puis surtout ce que vous proposez. Vous avez deux choses, hein. Vous avez à l'aéro d'un côté la soufflerie et de l'autre côté l'étude posturale. Peut-être quand même poser le décor pour nos auditeurs et auditrices.
Oui, bien sûr. Alors nous, à l'origine, on est une société de conseil en aérodynamique. On travaille pour différents secteurs d'activité, que ce soit le sport de haut niveau, la défense, l'aéronautique, l'automobile, j'en passe et des meilleurs.
Ouais.
Et depuis la création de l'entreprise, en fait, en 2002, on a commencé à travailler sur le domaine du vélo. On a toujours plus ou moins bossé dans le domaine du vélo.
Ouais.
Mais on avait une orientation qui était une orientation qu'on appelle B2B, donc qui s'adressait à des professionnels. Donc on travaillait avec, on travaille encore d'ailleurs, mais à l'époque on travaillait exclusivement avec des entreprises qui fabriquent ou qui conçoivent des vélos, des roues, des choses comme ça, ou avec des équipes professionnelles qui vont courir le Tour de France ou d'autres compétitions.
Ouais.
On avait une offre qui s'adressait principalement à ces gens-là. Et en 2021, on a lancé une entité qui s'appelle Aéroptimum, qui a pour but de s'adresser aux cyclistes sportifs, mais aussi, je dirais, à Monsieur Tout le Monde.
Ouais. Et Madame Tout le Monde aussi.
Et bien sûr, et Madame Tout le Monde, bien sûr. En proposant en fait à la fois des essais en soufflerie pour qu'ils souhaitent, alors que ce soit pour vivre une expérience un petit peu hors du commun, comme on va faire un saut à l'élastique ou un saut en parachute, on peut venir faire du vélo dans la soufflerie.
Donc on peut s'offrir ce moment-là.
C'est ça, on peut s'offrir un moment sympa, un petit peu hors du commun, où l'adrénaline va monter un petit peu, je dirais. Et puis, sinon, on peut aussi travailler avec des gens qui sont des amateurs éclairés en compétition, qui vont vouloir améliorer leur performance. Ça, c'était l'idée de départ. Mais améliorer la performance aéro, ça n'a de sens qu'à condition qu'on ne dégrade pas l'ergonomie.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on a mis à côté de ces essais en soufflerie des compétences en termes d'études posturales, qui sont indispensables, je dirais. La partie soufflerie, c'est vraiment pour de la recherche de performance. Le côté étude posturale dynamique, c'est quelque chose où chaque cycliste en fait devrait y passer. J'ai coutume de dire que faire du vélo sans avoir fait d'études posturales, c'est un peu comme courir un marathon en mocassin. On peut le faire, mais c'est ni confortable ni agréable et encore moins performant.
Et oui, on est à peu près sûr de pas arriver le premier. Mais au-delà des gains marginaux, est-ce que vous avez l'impression notamment que la notion de rendement, c'est un terme qu'on utilise souvent sur le vélo, il a été un peu sacrifié sur l'autel de l'assistance électrique?
Oui, forcément, puisque à partir du moment où on ne génère plus soi-même l'intégralité de la puissance nécessaire pour faire avancer le vélo, on est un petit peu moins regardant sur les aspects rendement. Il n'empêche qu'on pédale toujours, quoi. C'est pas une mobylette, donc on est toujours en train de pédaler et on a tout intérêt à le faire dans les meilleures conditions possibles.
Ouais. Mais alors, pareil, vous parlez d'études posturales. Alors c'est un concept qui est très accepté, connu et même recherché par les cyclistes sportifs ou amateurs éclairés, ceux qui roulent beaucoup, longtemps. Et puis il y a une image de performance derrière. L'étude posturale, c'est aussi pour ceux qui veulent rouler vite et être devant. Pourquoi ça peut servir, je dirais, par exemple, Emmanuel, mon épouse, qui va au boulot à vélo de temps en temps, qui fait 12-20 km par jour?
Ouais, c'est clair que l'étude posturale aujourd'hui, elle est identifiée comme un élément de la performance.
Ouais.
Or, c'est un élément de la performance, mais ce n'est pas que un élément de la performance. C'est avant tout un élément de confort et d'ergonomie.
Ouais.
Et ça, on en a tous besoin, qu'on soit sportif ou simplement vélo taffeur. On a l'ergonomie est hyper importante. Et justement, donc nous on est franchisé Vélo Fitting, on fait partie de la franchise Vélo Fitting qui couvre à peu près tout le territoire français pour les études posturales.
Alors pour préciser pour les auditeurs auditrices, Vélo Fitting c'est un proto protocole, hein, c'est ça, c'est un protocole d'études posturales pour adapter le vélo au cycliste et non adapter le cycliste au vélo, en gros.
C'est ça. En fait, le but de l'étude posturale, parce qu'on l'a pas précisé, le but de l'étude posturale, c'est de régler le vélo aux mensurations du cycliste de manière à ce qu'il puisse exploiter au maximum sa machine sans se faire mal.
Oui.
Donc c'est vraiment le but du jeu. Donc on va augmenter les puissances générées, mais on va surtout diminuer les risques de blessures et les douleurs qui peuvent résulter de l'utilisation du vélo.
Et alors les particuliers qui viennent vous voir, ils viennent vous voir parce qu'ils ont des douleurs ou parce qu'ils veulent éviter les douleurs d'une manière générale?
Alors, la plupart du temps, les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont un copain qui est passé par chez nous, oui. ou une copine qui est passée par chez nous et qui leur dit c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir changé de vélo.
Oui.
C'est vraiment souvent comme ça que ça se passe. Même dans le milieu sportif, en fait, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études posturales dynamiques.
Oui.
Pour moi, ça me surprend toujours parce que c'est vrai que c'est un élément qui est capital en fait pour moi dans le vélo. De la même façon qu'on doit entretenir son vélo, gonfler les pneus, on doit faire en sorte d'avoir un vélo qui est adapté à sa morphologie, et c'est très rarement le cas. C'est-à-dire que nous, on doit, à notre niveau, on a fait plusieurs centaines d'études posturales. On a positionné plusieurs centaines de cyclistes sur leur vélo. On doit être à 0,02%, quelque chose comme ça, de gens qui étaient correctement posés sur leur vélo.
Oui, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont, vous dites, oulala, enfin, déjà à l'œil, vous le voyez que ça va pas?
Bah oui, enfin même et c'est là où on se rend compte que c'est important dans le vélo taf aussi, c'est que quand on regarde les gens, quand on est dans la rue et qu'on regarde les gens passer sur leur vélo, on a mal pour eux quelquefois. Mmh. on se rend compte que ils sont pas du tout posés correctement sur le vélo. Alors c'est oui, certes on a une perte de performance, mais c'est pas ce qui va intéresser votre épouse par exemple.
Oui.
La performance, elle va s'en moquer. C'est un élément qui peut freiner la pratique du vélo taf. Parce que quand on prend un vélo qui est mal réglé, et si par malheur il est aussi mal entretenu avec des pneus sous-gonflés, bah on va prendre le vélo une fois pour aller au boulot, et puis on va tirer une conclusion qui est de dire c'est super dur le vélo, j'y arrive pas.
Ouais.
Alors que en fait c'est simplement parce que votre vélo est mal réglé que vous n'arrivez pas à générer la puissance. Et ça c'est dommage quoi.
Ouais, mais ça veut dire que vous avez quand même avec Bike Fitting, vous avez une approche médicale ou mécanique, médico-mécanique.
Alors c'est biomécanique, on va dire.
Ouais. C'est-à-dire c'est mieux que, dit que moi, ouais.
Il y a le protocole effectivement vélo fitting qui nous aide beaucoup là-dedans.
Ouais.
C'est-à-dire que on va analyser les angles de tous les membres. Mm-hmm. On va équiper le cycliste de cibles à chaque articulation, et on va mesurer les angles d'ouverture et de fermeture du genou, de la hanche, des coudes, etc., etc.
Ouais.
Et on sait grâce au protocole vélo fitting qui s'appuie sur des années d'expertise que il faut pas aller au-dessus et en deçà de certains angles pour que ce soit confortable et pour l'utilisateur.
Mais on va
régler le vélo de manière à ce que le cycliste dans sa pratique reste dans cette plage d'angle.
Mais il y a quand même aussi une notion de personnalité ou de motivation sur un vélo. Mon confort à moi et ma recherche à moi n'est pas la même que celle d'Emmanuel ou la vôtre. Comment est-ce que vous adaptez ça, comment est-ce que vous adaptez justement cette étude posturale à des ambitions ou des demandes qui sont finalement très différentes?
Alors on va effectivement adapter. Typiquement, si on parle pratique sportive, on va positionner différemment un triathlète d'un cycliste.
Oui.
Pour une raison toute simple, c'est que le triathlète, une fois qu'il descend du vélo, il doit encore courir.
Ouais.
Et donc, on ne va pas surcharger les muscles qui vont être utilisés sur la course à pied derrière.
Pas d'agenda cette semaine, puisque l'émission est enregistrée et sa date de première diffusion n'est pas encore connue, même si je pense que ce sera le lundi 11 novembre. On se retrouve dans 3 minutes. Pour l'instant, on s'écoute Cigarette After Sex. Le morceau s'appelle Crush. À tout de suite.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Sur Cause Commune 93.fm, deuxième partie de Rayon Libre avec Alexis Lapouille. Alexis, on parlait de biomécanique juste avant la pause musicale. Vous preniez l'exemple du triathlète. Ici, quand même, chez Rayon Libre, on tente de s'adresser à tous les cyclistes et à celles et ceux qui sont en devenir. Quelle est quand même la différence notoire entre une étude posturale que vous faites pour quelqu'un qui fait du sport, sur un vélo de sport, et pour quelqu'un qui fait du vélo en mode transport?
Sur le mode de sport, on va conserver une notion également de performance et de performance aérodynamique, ce qui ne sera pas forcément le cas sur dans des cas plutôt orientés vélo d'agrément ou vélo utilitaire, je dirais.
Donc c'est une notion de quoi? C'est une notion de compromis entre performance et confort qui est placé différemment.
Le curseur sera placé différemment. On a au sein de VéloFitting développé un protocole spécifique pour le vélo taf.
Oui.
Pour répondre à ce besoin-là, et puis aussi pour on sait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le réglage ultime comme on va le faire dans le domaine sportif.
Ouais.
Et donc, ça nous permet de faire des études posturales qui sont plus rapides et du fait moins coûteuses.
Ouais. Comment vos deux métiers, le métier d'un côté de aérodynamique avec la soufflerie et de l'autre côté l'étude posturale, ils se complètent?
Ils sont intimement liés sur un vélo, parce qu'en fait la position elle doit à la fois respecter l'ergonomie et donc respecter ce qui se passe au niveau des études posturales.
Oui.
Et en même temps on peut pas être performant sur un vélo si on n'est pas aérodynamiquement bien posé.
Oui.
Donc ces deux, on va en fait jouer sur les mêmes paramètres. Hein. L'idée, ça va être de régler la position du cycliste, mais avec deux objectifs qui sont différents. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on couple ces deux éléments. C'est-à-dire que la façon dont on procède, c'est qu'on va faire l'étude posturale dans un premier temps, régler l'ergonomie, parce que comme je le disais en préambule, le confort, même dans un cadre sportif, le confort est impératif parce que si vous n'avez pas le confort, à un moment vous allez vous relever pour vous décontracter le dos, les épaules ou je ne sais quoi d'autre. Et là c'est de la perte de performance qui est gigantesque. Donc on privilégie toujours le confort. Et une fois qu'on a obtenu ce confort, l'étude posturale va pas nous donner une valeur d'angle à obtenir, mais une plage d'angle dans laquelle il faut se placer.
Ouais.
Et donc en soufflerie, ensuite on va jouer dans cette plage d'angle. Parce qu'on sait qu'on ne dégradera pas l'ergonomie si on reste dans cette plage, et donc on va jouer sur cette plage pour optimiser, pour aller chercher les derniers degrés d'optimisation pour l'aéro.
Ouais. Et alors j'ai quand même une question moi qui me vient plutôt en début d'émission. Vous nous parliez de vos clients, alors ils viennent de plein d'industries différentes. Vous disiez la moto, l'auto, l'éolien, l'aéronautique, la défense, etc. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller plus loin dans les services aux cyclistes?
Alors parce que le cyclisme est une grosse activité chez nous depuis pas mal d'années.
Ouais. Bah vous êtes à Nevers, vous n'êtes pas très loin de chez Luc, je crois.
Ah on est juste à côté,
ouais.
Effectivement. Et donc on a été amené à travailler assez souvent avec des cyclistes. On a été on a travaillé d'ailleurs avec les athlètes
olympiques,
sport qui ont participé aux Jeux Olympiques.
Ouais. Cassandre, elle est passée chez vous, Cassandre Beaugrand?
Non, on a travaillé avec les cyclistes, pas avec tous les triathlètes,
ouais.
Mais on a travaillé avec les cyclistes principalement, qu'ils soient sur un vélo traditionnel, sur un tandem ou sur un handbike.
Ouais.
Ils sont tous passés chez nous. Et donc on a cette fibre en fait, cette fibre du vélo chez nous et ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est en contact avec Vélo Fitting parce que nos métiers sont intimement liés au niveau du vélo. Et puis en 2021 on s'est décidé à franchir le pas et à proposer ce service,
à
devenir franchisé Vélo Fitting,
ouais.
pour assurer un service complet.
J'imagine autant votre matériel Vélo Fitting, il peut se déplacer et être mobile, autant j'imagine le tunnel de soufflerie, il est posé à Nevers et il se déplace pas lui.
Alors oui, le système de fitting en fait, on le déplace puisqu'on se déplace dans des magasins partenaires, chez des vélocistes, pour aller positionner les clients directement proche de chez eux. Donc on se déplace dans une dizaine de départements autour de Nevers.
Ouais.
En revanche, la soufflerie, effectivement, la soufflerie fait 40 mètres de long, 15 mètres de large et 8 mètres de haut.
Ouais.
Donc c'est un petit peu plus difficile à déplacer. Ouais.
Et vous dites, combien ça coûte une séance de soufflerie?
Alors une séance de soufflerie, on a des tarifs qui commencent à partir de 300 euros TTC pour une demi-heure.
Ouais, donc je viens avec mon vélo et vous me mettez dedans, quoi.
C'est ça, on vous installe dans la soufflerie sur votre vélo et puis on met en route la machine. Donc la machine, le ventilateur fait 340 chevaux, donc ça vous donne une petite idée, on peut monter à 140 km/h. Donc
devant,
on le fait pas, hein, pour les cyclistes, enfin pour la plupart des cyclistes on le fait pas,
ouais.
On l'a fait pour certains.
Ouais. Ils ont demandé ou vous l'avez fait par surprise?
Non, ils l'ont demandé, puisque on a eu l'occasion de travailler il y a quelques années pour Eric Baron, qui a battu le record du monde de
vitesse en descente
sur un vélo.
Ouais.
Voilà, 227 km/h. Et puis on travaille également maintenant avec un monsieur qui s'appelle Pierre Thévenard, qui a les mêmes envies de vitesse. Donc voilà, ça fait.
Et c'est
à 140 chez nous.
Et donc pour 300 euros, on s'offre une, je dirais, une étude de comment est-ce qu'on aéro, et puis on s'offre un petit frisson aussi.
Oui, alors à 300 euros, on est vraiment plus sur le petit frisson ou sur choisir un casque quand on est cycliste sportif, choisir le casque qui est adapté à sa morphologie.
Ouais.
Après, on a des offres avec des tarifs dégressifs en fonction du un coût horaire dégressif en fonction du nombre d'heures.
Ouais.
Ça peut aller jusqu'à la journée, mais disons qu'on reste dans des tarifications qui sont de quelques centaines d'euros pour le cycliste moyen, je dirais.
Donc, en vous écoutant, c'est un joli cadeau à se faire entre potes de peloton et venir une journée chez vous, comme on pourrait s'offrir une journée sur un vélodrome ou un baptême des vélodromes.
Tout à fait, c'est effectivement, on a des cartes cadeaux et on vend quelques cartes cadeaux à l'approche de Noël ou de la Saint-Valentin souvent.
Ouais. Alors, le temps passe, ça fait déjà 26 minutes même qu'on est ensemble. Alexis, il va falloir qu'on lance la chronique d'Abel Guggenheim. J'ai quand même une question pour vous. Vous avez 3 minutes pour réfléchir, Alexis. C'est si vous deviez donner un seul conseil à nos auditeurs, auditrices, un conseil très général pour qu'ils soient mieux sur leur vélo, peu importe leur usage, ce serait lequel? Mais avant d'y répondre, vous avez 3 minutes parce qu'on va écouter Abel Guggenheim. Et oui, auditeurs, auditrices, souvenez-vous, la semaine dernière, Abel mentionnait et suggérait de réécouter sa chronique du 16 mai 2022 qui concernait déjà un acte de violence délibéré envers un cycliste. Je vous invite à écouter la sage parole d'Abel Guggenheim.
Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de cyclistophobie. Vous m'avez déjà entendu prononcer ce mot, mais je ne pense pas lui avoir consacré une chronique. Notre société se fragmente et chaque catégorie a tendance à défendre ses intérêts propres exclusivement, y compris parfois au détriment des autres. Nous-mêmes cyclistes ne sommes pas exempts de cette tendance et il m'arrive de lire ou d'entendre des propos de cyclistes qui cèdent à cet égoïsme catégoriel. Mais aujourd'hui, c'est la détestation des cyclistes qui me semble avoir atteint un point inquiétant, comme le montre une spectaculaire vidéo qui tourne sur Internet. Ça commence comme plein d'autres. Un cycliste filme son trajet sur une petite route à partir d'un appareil fixé sur son guidon. Il fait beau, un camion arrive de derrière, double le cycliste d'un peu près et, à la fin de la manœuvre, touche le guidon, ce qui fait tomber le vélo et le cycliste. On peut alors penser qu'il s'agit d'une maladresse, d'autant plus qu'on voit le camion s'arrêter et 2 personnes en sortir. Mais le doute cesse rapidement lorsqu'il se précipite vers le cycliste, l'insulte et le frappe violemment sans remarquer la caméra qui a filmé toute la scène et repart en insultant encore et en le menaçant. La scène est violente et fait froid dans le dos. Mais les suites en sont également très inquiétantes. La vidéo paraît sur les réseaux sociaux, un article détaillé paraît dans Le Parisien. La zone des commentaires des lectrices et lecteurs de ce journal est bloquée à 10 contributions, disparaît puis réapparaît, sans doute après quelques retraits. Sur Twitter, une avalanche de commentaires, la très grande majorité faisant part de leur horreur et de leur soutien. Il faut dire que quasiment toute la cyclosphère a été rapidement informée et s'est évidemment et à juste titre mobilisée. Mais ce sont bien sûr les autres commentaires qui m'interpellent. Et même s'ils ont été très minoritaires, ils donnent à réfléchir. Il y a ceux qui demandent ce qui s'est passé avant et qui sous-entendent, ou même écrivent, qu'il a sans doute bien mérité cette petite frayeur et cette raclée. Et puis il y a... Il a malheureusement pris pour tous les connards à vélo de Paris. Faudrait qu'il arrive la même chose aux cyclistes psychopathes de Bruxelles. Font chier ces vélos sur la route qui pensent que tout est permis, brûler les feux rouges, les stops, rouler cool au milieu de la route pour emmerder. La vraie vie rattrape les cyclistes enfin. On vous a dit d'arrêter de faire les grands sur la route car un jour vous allez trouver plus tordu que vous. Maintenant les cyclistes vont réfléchir à 2 fois avant de faire des sauts d'humeur sur la route. Un cycliste résume. Il y a un climat de haine des cyclistes qui s'installe notamment sur Twitter et qui se traduit sur la route par ce genre de dinguerie. Ça fait vraiment flipper. Oui, ça me fait flipper. On me dira que ce n'est pas pire que ce qui arrive aux femmes violées accusées de l'avoir cherché par leur tenue ou leur comportement, aux victimes de racisme ou de xénophobie accusées à cause de la couleur de leur peau ou de la consonance de leur nom, et je ne cite pas toutes les discriminations dont des catégories de personnes sont l'objet. Justement, je m'inquiète qu'alors que dans l'ensemble la plupart de ces discriminations persistent, une nouvelle catégorie y soit injustement ajoutée. J'espère avoir l'occasion l'année prochaine d'un propos plus optimiste.
Merci Abel. Donc une dernière question pour vous Alexis Lapouille. Si vous deviez donner un seul conseil à nos auditeurs, auditrices, peu importe leur pratique, ce serait lequel pour qu'ils soient mieux sur leur vélo?
Ne mettez pas la selle trop basse. Vous chargez les quadris inutilement et ça va vous conduire à arrêter le vélo taf.
Donc il vaut mieux l'avoir un tout petit peu haute et puis la rabaisser un peu que l'inverse.
Oui, c'est ça. En fait, si, alors il faut pas l'avoir trop haute non plus, parce que sinon on va devoir jouer des hanches pour aller chercher le point mort bas.
Ouais.
Mais si on est vraiment trop bas, on charge les quadrilles et enfin le dessus des cuisses. Et là, ça fait ça pique un peu. Ouais.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Alexis Lapouille, pour votre temps et pour vos explications. Auditeurs, auditrices, sur le site de Cause Commune, ou même si vous pourrez retrouver tous les liens, notamment de l'entreprise de Alexis. Et puis si vous écoutez cette émission via une appli de podcast, pareil, les liens sur les sites d'Alexis Lapouille. Et celui ou celle qui a fait tout le process soufflerie plus études posturales, qu'il ou elle nous contacte, j'ai bien envie de faire une émission sur l'avant, l'après. Ça repoussera d'autant ce moment où je devrais me coltiner une émission sur l'héritage des Jeux Olympiques. Je vous invite à enfourcher votre vélo, à glisser votre tête dans le guidon ou pas. Je vous invite à aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est évidemment une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Il doit être 14h30. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires.